Aujourd'hui, dimanche 31 mars, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Cette semaine fut plutôt riche. Le président chinois Xi Jinping est venu en France. Dimanche, il a mangé avec les Macron dans une villa de style grec. Lundi, rebelote avec les Macron. Mais en plus, Alain Delon, la loose, Hélène Rollès, la chanteuse d'Hélène et les garçons, la super loose, c'était à l'Elysée. Et mardi, il a dû se fader Angela Merkel, la méga, méga loose. Avec un accueil comme ça, j'en suis sûr, il n'est pas prêt de revenir. Papa Xi. Sinon, événement hyper important, c'était mercredi dernier. C'était la journée sans plastique à France Inter. On a bu nos cafés dans des gobelets en papier. On s'en est mis partout. C'était formidable. J'ai la cuisse droite brûlée au deuxième degré. C'était génial. On a peut-être sauvé une méduse dans le Pacifique. Mais pendant ce temps-là, j'ai perdu la sensation du haut de la cuisse. Merci France Inter. Bravo la journée sans plastique. Également menu de la semaine et même du jour. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de visibilité des trans. Et sans aucun rapport, c'est aussi l'anniversaire d'une grande, grande dame de la chanson française. Trop vite oubliée. Ah, Cindy Sander, elle a 41 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Cindy. Tout le monde t'a oublié, sauf moi. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté et qui fait la part belle aux femmes exceptionnelles pour m'accompagner, l'homme de tous les talents,
oh mon Dieu.
Albert Algout. Comment allez-vous, apprenti coiffeur?
Je vais d'autant mieux que je suis nouvellement coiffé et je suis d'autant plus content que j'ai vu, comme vous, un excellent film, un excellent spectacle dont je n'ai pas le droit de dire qui s'y produisait. Puisque je n'ai pas le droit de dire le nom de nos invités.
Oh, en même temps, c'est juste un tout petit délai, car nos invités en ce dimanche 31 mars sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Humoriste, auteur, comédienne. Elle est un peu collègue, hein, puisque chaque mardi, elle distille son poison anti-con sur France Inter, dans l'émission de Charline Von Hennecker. Par Jupiter, elle vient nous voir aujourd'hui pour parler de son spectacle Peau pourrie tous les mardis au Théâtre des Deux Ânes à Paris, c'est jusqu'au 30 avril. À noter que ce spectacle est également en tournée, toutes les dates sont bien entendu sur le site de l'émission Vous les femmes, sur franceinter.fr, à une petite date comme ça au hasard, Strasbourg le 23 mai à la Cité de la Musique et de la Danse. Bonjour et bienvenue à vous, Constance.
Bonjour.
Ça va?
Ah, super bien.
Écoutez, on a vu votre spectacle avec Alberto, on a été conquis.
Oh, je suis contente.
Face à Constance, mannequin, actrice, chanteuse, réalisatrice, aujourd'hui nous recevons la comédienne, comédienne qui, selon notre ami et critique cinéma de Télérama, l'excellentissime Guillemette Audicino, est la future star du cinéma français. Elle vient nous voir pour parler du film Curiosa, long métrage de Lou Jeunet, qui sort mercredi prochain. Bonjour et bienvenue à vous, Noémie Merlant.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, et vous?
Wow, formidable, ravi de vous accueillir. Et Guillemette Audicino, on suit tous ses conseils, forcément. Et on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus.
Très, très bon goût.
Film formidable qui nous a enchantés avec Alberto, et on en parlera bien sûr tout au long de l'émission. Alors voilà une présentation, j'en conviens, mesdemoiselles, un peu sommaire. Pour vraiment, mais vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami et cousin d'un célèbre rock critique. On vous écoute, Jean-Philippe Manœuvre.
Salut les kids! Putain, Dani, je crois que je suis en train de quitter l'adolescence.
Ah, bah, il serait temps.
Garde ta fucking ironie pour toi, Dani. Comme le chantait Aretha Franklin, all I'm asking is for a little respect, just a little bit. Avec mon cousin Philippe, on est quand même les plus vieux ados de l'univers, ouais. Faut pas l'oublier. Mes Santiags, mon Perfecto, mes Ray-Ban à verre fumé, ça fait 70 ans que je les porte. Alors quand je me rends compte que tout ça risque de disparaître à jamais, I am terrified.
Qu'est-ce qui pourrait justifier cette crainte, Jean-Philippe?
J'ai des troubles dingues de la mémoire. Tiens, par exemple, ouais. Hier, j'étais incapable de me souvenir si dans les coulisses de Rock en Seine, le 28 août 2009 à 22h17, si c'est Noël Gallagher du groupe Oasis qui a fracassé sa guitare Gibson Les Paul sur la teuté de son frère Lionel, ou si c'est l'inverse.
Ouais, en même temps, c'est pas très important. En revanche, à propos de choses importantes, est-ce que vous vous souvenez ce que vous deviez dire à propos de nos invités, en l'occurrence Noémie Merlant et Constance?
Qui ça?
Noémie Merlant et Constance.
I'm joking, bien sûr que je m'en souviens, Dani, n'empêche, j'ai pas que des trous de mémoire. Maintenant, souvent, à force d'avoir tellement saigné des tympans en écoutant au-delà du seuil de douleur, AC/DC, Motorhead, Kiss, j'ai des troubles de l'audition, je deviens sourdingue.
D'accord, mais quel rapport avec nos invités, Jean-Philippe?
Comment?
Quel rapport avec nos invités?
Comment? Non, je déconne, je t'entends bien. Ce matin, quand Kiki, Christine Kern, notre programmatrice cascadeuse, m'a appelé en me disant que le film Curiosa évoquait les amours de Pierre-Louis, comme j'ai les portugaises qui s'en savent, j'ai compris Jerry Lee Lewis. Et j'ai crié génial, j'espère qu'il va chanter Great Balls of Fire.
Ceci dit, j'ai vu Curiosa, bien sûr, j'ai adoré ce film. Surtout votre prestation, Noémie Merlant, dans le rôle de Marie de Heredia. Elle était déjà complètement rock, la meuf, rebelle, révoltée, subversive, vivant à donf sa love story avec Peter Lewis, une riot girl avant la lettre. Elle me fait penser à Joan Jett de The Runaways, aux filles de Slits, de Shags, de Vixen, Seven Year Beat,
Pandora. Les groupes de filles quand même.
Bon, quant à Constance,
merci.
Mon ami Albert Algou, qui vient d'aller la voir avec vous, Dani. Il était avec vous hier soir.
Je m'en souviens, ouais.
Il m'a dit qu'elle déchirait grave. Il m'a dit, c'est vrai.
Non,
il m'a dit qu'elle déchirait grave, que c'est une bête de scène et qu'elle menait son show hilarant à un rythme d'enfer. Complètement rock, la meuf. Au fait, il est où, mon pote Albert?
Ah, vous pouvez aller le chercher, il est parti aux commodités.
Ok, je vais le chercher, so long.
Merci Jean-Philippe Manœuvre, on vous retrouve j'espère dimanche prochain, ou alors un de vos autres amis.
Dans mon EHPAD.
Redbone, come and get your love dans Vous les femmes sur France Inter. Nous sommes avec Constance et également avec Noémie Merlant jusqu'à 18h. Come and get your love, Redbone sur France Inter.
Vous les femmes?
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui? Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie de Constance, oui, au Théâtre des Deux Ânes, pour parler de son spectacle Pot-pourri, qui est tous les mardis à 20h30, c'est jusqu'au 30 avril, et en tournée dans toute la France. Petit exemple, à Toulon, ce sera le 6 avril. Toutes les dates sur le site de Vous les Femmes. Également avec nous, Noémie Merlan, à l'affiche de Curiosa, le film premier long métrage de Lou Jeunet qui sort mercredi prochain. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos brillants parcours. On commence par vous, Constance. On commence en 1988 et c'est le premier jour de l'école. Pourquoi c'était si important pour vous? Bon souvenir, mauvais?
Un mélange. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la prise de conscience que l'autre existe vraiment en dehors de la famille, des gens qui viennent de temps en temps de l'extérieur. Et en fait, juste, c'est l'entrée à l'école. Donc, vivre avec les autres. Mm-hmm. Quel enfer.
Ouais.
Quel enfer. En fait, il y en a quelques-uns, c'était des gens sympas, et le reste, c'était un peu compliqué. Mais le monde extérieur, c'est un peu compliqué. Les gens autrui, le concept de l'autre, c'est assez abject.
Mais déjà, à l'époque, vous aviez conscience que c'était abject?
Mais oui, très tôt.
Très tôt, très en 88.
Alors, moi, je me souviens que quand mes parents me mettaient dans un... Vous savez, les manèges, les trucs qui tournent en rond. Alors, on mettait dans un avion. Et je trouvais ça d'une absurdité terrible parce qu'en fait, je savais bien que je ne volais pas et que ça tournait en rond, ça n'allait nulle part. Donc, pour leur faire plaisir, je faisais coucou. Mais évidemment que j'avançais pas.
Oui, oui, oui.
C'est terrible ce qu'on fait.
Ce qu'on fait subir aux enfants, apparemment aux enfants comme vous, Constance. Et vous, Noémie, en 1988, quand vous êtes rentrée à l'école, vous aussi, vous avez cette sensation de rentrer dans le monde, un monde fracassant, douloureux et méchant?
Oui, non, je ne me suis pas posé toutes ces questions, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vous.
Non, hein, moi, j'ai un problème.
Non, mais je voulais juste vérifier. Non, d'accord.
Non, alors j'ai aucun problème avec le fait d'avoir un problème.
D'accord, très bien. Non, mais voilà, ça me rassure. Vous n'avez pas posé toutes ces questions. Vous êtes rentrée, vous avez joué avec ceux qui étaient là.
Voilà.
Voilà. Voilà, comme un gros pourcentage de la population. Mais vous avez droit à la différence, complètement.
Je vous remercie.
Mais oui, oui, oui. Et vous en profitez, et vous avez bien raison. On passe en 2003, entrée au Conservatoire d'art dramatique de Lille.
Et ouais.
Et là, les gens sont toujours méchants?
Formation. Bah oui, ça va pas changer, évidemment. Non, mais en fait, il y a toujours des pépites, des gens formidables, et puis après, il y a les gens dont il faut se méfier, quoi. Mais des fois, il y a des gens qui font semblant d'être des pépites, et en fait, c'est pas des gens gentils.
Et des gens dont il faut se méfier, apparemment, et qui finalement s'avèrent être des gens agréables.
Ça, c'est incroyable aussi. Des fois, au premier abord, on dit, c'est un vrai con. Par exemple, vous.
Oui.
Et puis, au final, on se rend compte vite que vous êtes.
Je me suis dit la même chose.
Oui, c'est ça.
Et Alberto, c'est exactement le contraire. On se dit qu'on peut compter dessus, et c'est vrai.
Non, comme quoi, faut décortiquer et puis se protéger. Alors, donc, rentrer au conservatoire, formation classique, je faisais rire, même sur les textes classiques, c'était comme ça. Voilà.
D'accord. En parlant de gens dont il faut se méfier, décembre 2010, premier sketch chez Laurent Ruquier.
C'est quand même risqué ce que vous formez comme phrase. On ne demande qu'à en rire, c'était une expérience pour moi intéressante. Ça a été une belle vitrine, un accélérateur de carrière. Ça a été, il y a plein de gens qui ont pu me découvrir. On dit le grand public, c'est vraiment drôle ce terme, le grand public.
Les gens.
Les gens. Et voilà, il y a des gens qui ont pu me découvrir. Et c'était une belle expérience. Par contre, moi, à la télé, je n'étais pas hyper heureuse. Donc, je ne suis pas restée très, très longtemps. Mais je ne regrette pas, c'était une belle expérience.
Et novembre 2017, première chronique dans l'émission Par Jupiter. C'est sur France Inter que ça se passe. Vous en avez quel souvenir de cette première intervention?
Oh la vache, j'avais peur.
Ouais,
j'avais hyper
trouille,
peur parce qu'en fait, je pensais que tous les gens qui bossaient à France Inter étaient plus intelligents que moi.
Souvent, ouais.
Et je me suis rendu compte que j'avais une forme d'intelligence qui était différente, ouais. Mais qu'on pouvait apprécier.
Et vous en pensez quoi de l'équipe de Par Jupiter?
Ah mais je les adore. Vraiment. Ouais. Pourtant, j'aime pas beaucoup de gens.
Qu'est-ce qui fait leur différence?
La Belgique.
Ouais.
Déjà.
Il n'y a pas que des Belges.
Non, ils sont ouverts. Je crois qu'ils ont un grain aussi.
Mm-hmm.
Et non, c'est vrai qu'ils ont une super ouverture d'esprit. Je les admire en fait vachement. Je suis hyper fière d'être avec eux.
Voir si la réciproque est vraie, car je viens de croiser le visage de Charline Vandenecker, qui est là dans le studio. Charline Vandenecker. À la tête de Par Jupiter.
C'est la patronne.
Et Charline, qu'est-ce que vous faites un dimanche à la radio? Encore le travail, le travail, le travail.
Je suis venue vous surveiller, Daniel Morin, à voir si vous n'abîmez pas notre magnifique chroniqueuse Constance.
Ah ben voilà un élément de réponse. Constance vient de nous dire à l'instant qu'elle était ravie de participer à Par Jupiter. Elle dit que vous êtes des gens formidables, que vous avez un grain de folie, qu'elle
se sent à l'aise. Et je dois dire, pour dire toutes les saloperies qu'elle dit, il faut vraiment se sentir à l'aise chez nous. Et donc Constance, elle est extraordinaire parce qu'elle peut faire un humour très noir, très trash, toujours avec beaucoup de sens sur la société et beaucoup de poésie. Donc tout passe. Constance, tout passe, n'importe quel mot, elle va très 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 loin, c'est creusé et c'est fait avec le sourire. Donc on la garde.
Merci Charline.
Merci les amis.
Bon dimanche. Merci.
Vous dormez à France Inter.
Merci d'être passé.
Elle vit
à France Inter.
Oh ben voilà, ça s'est très bien passé alors finalement avec Madame Charline. Faut dire qu'elle est charmante et que son équipe est formidable.
Elle est
évidemment
extraordinaire, Charline.
Par Jupiter, c'est du lundi au vendredi de 17h à 18h sur France Inter évidemment. On passe à 2019 en mars. Vous venez sur France Inter, mais ailleurs, on a la chance de vous avoir dans Vous les femmes pour nous présenter votre spectacle Potpourri. Alors, je vais essayer de faire le résumé. Potpourri, c'est un spectacle où une mère de famille traumatise son fils, sale petit enfleur capitaliste qui s'ignore, ou une picarde, passée mécontente de son sort, qui n'est pourtant pas enviable. On notera aussi la présence géniale d'une tragédienne racinienne qui meurt à n'en plus finir en maudissant Dieu de laisser triompher sur Terre le mauvais goût et la connerie. L'élève de CM2, poète atroce qui se verra bien travailler plus tard dans des abattoirs, mais aussi une criminelle qui avoue avoir tué par passion électroménagère, une prof de chant au bout du rouleau, une bonne sœur inspirée et aspirante, une infirmière déroutante, bref, toute une galerie de femmes aussi inquiétantes qu'hilarantes, incarnées avec facilité. Car, comme dirait Constance, quand j'enfile un costume, je peux devenir tous les gens, des gens qu'elle aime ou déteste, car elle préfère manger des spaghettis avec des amis plutôt que du caviar avec des connards. Est-ce que c'est ça?
Oh la vache, c'est bien.
C'est résumé?
Bah, ça m'a donné envie de le revoir.
Ah bah, je comprends. Tenez, on écoute tout de suite un extrait de Potpourri.
J'aime les mots. Tous les mots. Les courts, les longs, les sales, les durs. Depuis toujours, les mots me touchent énormément. J'adore avoir des mots plein la bouche. Et je prends un malin plaisir à élargir mon vocabulaire. Comment ? Ma position préférée ? Oh, l'oxymore, évidemment. Douce croûte. Chiasse romantique. Vertueuse pute.
Donc il y a des mots qu'on entend très souvent sur France Inter, comme oxymore, et d'autres qu'on entend moins, mais plus, grâce à vous.
C'est une forme de racisme que de ne pas vouloir s'occuper de tous les mots.
Non, non, mais justement, vous occupez de tout le monde, c'est bien.
Non, mais j'essaye, mais les gens se plaignent énormément.
Par exemple,
mardi, je fais une chronique où je dis, je crois, 5 ou 6 fois bite. Ben, les gens se sont insurgés en disant, oui, c'est l'après-midi, c'est le service public. Mais comment on amarre son bateau?
Ou sa péniche.
C'est ça.
Mais vous recevez aussi beaucoup de mails de gens qui sont fous de joie de vous entendre.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais.
Mais vaut mieux susciter la haine et l'amour plutôt que rien du tout, plutôt que d'être tiède.
Ah, je suscite bien tout ça.
Oui, oui, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Nous, on avait ce cas-là avec Pierre-Emmanuel Barré.
Ah oui?
Oui, personnage qui était aussi truculent et qui n'avait pas peur d'employer les mots ultimes. Et il recevait des tombereaux d'insultes, mais des félicitations et un fan club incroyable.
Je crois que sur cette terre, il y a des gens qui sont morts et d'autres qui sont encore un peu vivants. Et quand les gens vivants se manifestent, ça fait chier les morts. Et il faut qu'on existe parce que les morts vont gagner sinon.
Très bien, c'est une lutte alors. C'est une lutte. C'est quoi le fil conducteur du spectacle Potpourri?
La liberté, la névrose. La liberté d'être névrosé.
Est-ce qu'on peut dire que vos personnages sont en mode harakiri, bête et méchant?
Avec plaisir.
Et lequel de vos personnages, pour lequel avez-vous le plus de tendresse? Parce qu'il y a une galerie de gens très très méchants, puis il y a une galerie de gens qui sont aussi touchants, qui sont blessés.
En fait, je suis obligée de tous les aimer terriblement pour pouvoir les défendre. Et je les aime vraiment complètement. Je les comprends, je connais leur parcours, je sens leur énergie en fait dans mon corps. Ça fait vraiment secte.
Non,
mais,
pas du
mais
tout.
Ils font partie de moi en fait.
Et c'est des gens que vous avez observés ou alors ça vient de votre imagination?
Oh, c'est un peu les deux, ça se mélange tout ça. Mais je sais plus trop des fois ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
Vous les avez écrits récemment parce que moi je me faisais la réflexion avec Alberto. Je disais, on a l'impression qu'il y a certains personnages qui ont été écrits avant parce qu'on a l'impression qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'absurde, qui sont un petit peu plus dans le sentiment, dans la période qu'on vit, les difficultés.
C'est un mélange, c'est pour ça que ça s'appelle Potpourri.
Ouais, ouais.
C'est qu'il y a des personnages qui ont plusieurs années et d'autres qui sont tout neufs. Et j'ai voulu qu'ils se rencontrent parce que tous ces personnages, en fait, c'est ce que je suis artistiquement aujourd'hui. Les nouveaux, ça remet de la fraîcheur. Et les anciens, en fait, ils renaissent différemment et ils reprennent de la force. Par exemple, le personnage de la Picarde, c'est un de mes plus vieux sketchs, je joue depuis des années. Et tous les soirs, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et il a pris une force avec le temps phénoménale qu'il n'avait pas au début.
Non, c'est marrant parce que ce sketch de la Picarde, en fait, il est tout en douceur. Il est violent quand on regarde la situation de cette femme, mais il est tout en douceur.
Mais c'est la seule femme qui est heureuse et c'est la seule qui fait rire sur des silences. Oh la vache.
Dis donc, allez voir le spectacle de Constance.
Est-ce qu'il y a du thé dans le mug ou quelque chose, ou de l'alcool?
Non, il n'y a rien du tout.
Elle a un mug à la main qui est un accessoire important.
En fait, elle touille du vide.
Voilà. Mais un peu comme dans sa tête.
C'est vraiment, ouais, elle touille du vide.
Si vous voulez voir une picarde qui touille du vide, ça se passe au théâtre des Deux Ânes, c'est 100 boulevard de Clichy, c'est à côté du Moulin Rouge, voilà une bonne indication. C'est le mardi à 20h30. Vos dates, Noémie Merlan. On commence, vous avez 17 ans, vous intégrez le cours Florent. Vous en avez quoi comme souvenir?
Donc je débarquais de Rezé, c'est une ville à côté de Nantes, et mon père m'a dit... Je voulais faire des études, une école de commerce. Il m'a dit, on n'a qu'une vie, prends une année sabbatique. J'ai lu un article sur le cours Florent, vas-y, et puis trouve-toi. Et je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Parce qu'il...
Hyper cool, votre père.
Hyper cool.
Parce que 9 fois sur 10, c'est... Non,
c'est
parce
le contraire.
Qu'on...
C'est le contraire.
Il m'a dit, mais je veux faire une école. Non, prends une année sabbatique.
Mais c'est qui cet homme? Il est incroyable.
Il est incroyable et pas du tout, en plus, artiste.
Oui, oui, oui.
Donc je suis montée à Paris.
Confiance en sa fille.
Ouais, et pourtant je suis encore réservée. Donc pas très à l'aise quand je suis arrivée au cours Florent, j'avais l'impression d'être un peu bête, de rien connaître ni au théâtre, ni au cinéma, ni et en fait, une fois que je me suis retrouvée sur le plateau, je me suis sentie bien à ma place, dans le sens où je me sentais vraiment en vie et libre, et ce que je trouvais pas forcément
ailleurs.
Ailleurs.
Ouais. Là, c'était la révélation. Une fois sur le plateau, c'est là que je dois être.
Ouais.
En 2009, L'Orpheline, avec en plus un bras en moins, qui me rappelle un petit peu le personnage de la Picarde et de son mari, qui a un petit souci.
Jean-Claude.
Ah, oui.
La danse des canards avec un seul bras.
À ne pas manquer. Revenons à vous, Noémie. L'Orpheline, avec en plus un bras en moins. Racontez-nous.
Un film tout petit budget, donc on n'était pas payé, il y a eu ce casting qui était fait au cours Florent, j'ai vu une petite annonce. Ça c'est cool parce que quand on est comédien et qu'on est en cours de théâtre et qu'on n'a pas d'agent et que c'est impossible de choper des castings. Donc là le réalisateur est passé par là et il y avait dans ce film Elvie Popo, Dominique Pinon, Jean-Claude Dreyfus, le film est réalisé par Jacques Richard. Et donc c'était ma première expérience d'un film et d'une caméra. Et la première scène, c'était, il fallait que je rentre habillée dans le bain et avec Melville Poupeau dedans. C'était très étonnant, très marquant. Et j'ai joué tout le film avec mon bras coincé dans le dos, avec un corset pour l'attacher. Et je suis tombée dans les pommes deux fois. Mais à part ça, c'était
incroyable.
Demander
qu'il serre un peu moins fort, parce que si je tombe deux fois dans les pommes, c'était le trac ou c'était juste
la contrainte physique. Voilà, c'était la contrainte physique. Et c'est un film qui avait été écrit par Roland Topor, donc il y a assez longtemps avant qu'il meure.
Oui, en général, il s'écrit avant de mourir. Oui, ça arrive à beaucoup.
Le grand Topor.
On passe en 2015, qui est une date qui compte pour vous. Et ce film aussi, c'est Le ciel attendra. On écoute un extrait.
Je m'en fous de vos histoires, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Ou c'est encore un truc pour m'enfoncer un peu plus. C'est comme le papier de la juge, il y a des noms dessus, je sais même pas qui c'est. Tous les jours, on ajoute des trucs à mon dossier. Bientôt, je suis la chef d'un réseau, n'importe quoi.
Sonia.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Sonia, tu n'as pas été embrigadée pour aller acheter une baguette de pain non plus. Il faut que tu comprennes. Bien sûr que tu connais pas les noms qui sont dans ton dossier, parce que tu parlais à des inconnus sur Internet qui préparaient un attentat en France. Je sais que vous êtes des victimes, mais vous êtes aussi des coupables. Chacune, elle embrigade l'autre, qui embrigade l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. C'est une espèce de chaîne vers la mort, comme ça, que vous mettez en place.
Le ciel attendra un sujet hyper contemporain, d'actualité en plus.
Oui, oui.
Pouvez-nous le résumer?
Le ciel attendra, c'est un film qui est sorti il y a 3 ans maintenant, qu'on avait tourné 2 jours après les attentats de novembre. On suit en fait l'histoire parallèle de 2 jeunes filles, une dans son processus d'embrigadement et l'autre dans son processus de désembrigadement. Mmh. Et ça a été un film extrêmement marquant, enrichissant aussi. J'ai travaillé mon rôle avec Dounia Bouzard, justement, qu'on entend dans cet extrait, qui joue dans le film, et une jeune femme qui était en processus de désembrigadement, donc qui a travaillé avec moi pendant plusieurs mois avant ce tournage.
C'est plus angoissant de jouer des sujets lourds comme ça, qui sont d'actualité, dont vous êtes contemporaine, que des choses qui soient fictionnées?
Ah oui, 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 non, c'était flippant. Franchement, déjà, c'était dur parce que il venait de se passer ça et on était tous choqués par cet événement terrible et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui, à ce moment-là, en plus, défend d'une certaine manière Daesh, c'était très perturbant. Mais on était tous tellement soudés sur ce tournage et on sentait que c'était important d'en parler et d'essayer de comprendre. C'est la meilleure manière, je pense, de vaincre et aussi de vaincre la peur et de s'armer. Et N'empêche que oui, ça m'a profondément marqué.
Marqué car, voilà, perturbant. Mars 2019, vous venez donc sur France Inter pour parler du film Curiosa de Lou Jeunet, son premier long métrage. Bah là, pareil, on va essayer de le résumer. Curiosa, c'est Marie, fille de José Maria, qui est mariée à Henri. Marie a deux sœurs, Louise et Hélène. Louise, la plus jeune, Hélène, la plus vieille. Marie n'aime pas son mari Henri, mais lui, Henri, il aime sa femme Marie. Du coup, Marie trompe Henri avec son meilleur ami Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis, il aime beaucoup faire l'amour avec beaucoup de femmes, dont Zora. Mais Pierre-Louis, il aime aussi la photo. Alors, il prend des photos pendant qu'il fait l'amour avec un Kodak. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Merci Kodak. In fine, gros micmac. Et c'est Marie qui prend le contrôle du Kodak. Est-ce que c'est ça?
Ah oui, c'est génial.
Ah, voilà, parce que je peux vous dire, on a mis du temps avant d'écrire ça. On écoute un extrait.
L'heure des fêtes de soi est tout en là, par terre.
Et nu.
Ah oui, et nu, et leur robe arrachée tout entière de travers. Non, c'est pas ça.
Il n'y a pas du tout.
J'ai un enregistré ça, mais par cœur.
Quelle comédie on nous fait jouer, nous, les jeunes filles à marier? Nous ne sommes que des maisons à vendre, sans possibilité de louer, en attendant l'acquéreur.
Marie va dire à Anthony de servir le thé.
On peut seulement faire visiter, et encore, pas à tous les étages.
N'ose pas l'imaginer dans le plus simple appareil.
Marie, attendez-moi. Anthony va avoir besoin d'aide.
Alors, une histoire d'amour et d'érotisme inspirée de la relation bien réelle entre Marie de Heredia et de l'écrivain Pierre-Louis. Alors, qui était cette femme, Marie de Heredia, devenue écrivain sous le nom de Gérard Douville?
Alors, c'était... une femme extrêmement moderne pour son époque. Et elle a, c'est ce qu'on voit dans ce film, c'est elle a son histoire d'amour adultérine avec Pierre-Louis, qui est le meilleur ami de son mari. Et malgré tout, elle décide de vivre cette histoire. Et lui, c'est clair que c'est un érotomane et qu'il voit les femmes comme des objets qu'il collectionne. Et malgré tout, elle va, comme vous l'avez très bien dit, prendre le pouvoir. Et elle va aussi mettre en scène, à un moment donné, elle va essayer de le prendre lui aussi en photo nue. Mmh. Et elle va aussi mettre en scène ses séances photos en donnant, en jouant ce qu'elle veut. Et petit à petit, leur liaison qui est photographique est aussi littéraire, et elle va se découvrir en tant qu'artiste, et elle va prendre le nom d'un homme pour écrire, et petit à petit, elle va même collectionner les amants de plus en plus jeunes. Donc voilà, c'est une femme qui... très inspirante.
Alors, il y a une multiplication de scènes érotiques et voire plus. Mais ce que vous me disiez, Albert, c'est que ça n'empêche pas l'amour, le sentiment.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un aspect chez Pierre-Louis, enfin, dans les livres de Pierre-Louis, hein, un aspect dramatique de la sensualité. C'est pas au-delà du, j'allais dire, de la relation charnelle, il y a le problème de l'amour, puisque même Zora, le personnage qui apparemment est très libre, qui au départ étonne Marie, qui a donc des relations avec Pierre-Louis, même elle, en fait, est amoureuse de Pierre-Louis. Donc l'amour, c'est les sentiments et les relations charnelles se mélangent et ça devient très très ambigu. Et ce film, en ce sens-là, il est absolument formidable. Parce que on est bien sûr, il y a des scènes de nu, etc. Mais bien au-delà, la question qui se pose, c'est celle de l'attachement, du sentiment. Et il n'y a pas de réponse.
Alors on vient de le dire, là, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de nu. Est-ce que ça a changé quelque chose que ce soit une femme, en l'occurrence Lou Jeunet, qui soit derrière la caméra? Ou peu importe, réalisateur, homme ou femme, c'est le réalisateur.
Peu importe, oui. Je pense que ce qui compte, c'est... le regard bienveillant de la personne qui nous filme, qui nous regarde, qui nous dirige. Alors peut-être que c'est plus évident femme à femme, je ne sais pas. Mais Lou avait ce regard-là dès le départ, parce qu'on a fait des essais nus avant d'être choisis. Du coup, moi, ça m'a convaincue que ça allait très bien se passer. Et ça s'est très bien passé.
Et là, on peut dire, on a remarqué aussi qu'il y avait une quasi-parité, parce que d'habitude, il y a souvent des femmes nues un peu partout. Dans les films, il y a des scènes déshabillées. Et les garçons, on ne les voit jamais entièrement nus. Mais là, il se trouve qu'il y a certains plans de garçons au naturel. Ce qui est assez rare pour être souligné.
Oui, c'est vrai.
Dans ce film, il y en a
également...
Mais
ça va dans le sens que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que d'objet, elle devient sujet. Puisque c'est elle qui prend effectivement le Kodak pour photographier. Donc ça, c'est très symbolique. Mais c'est féministe en même temps. Puisque là, la situation se retourne. Elle avait en tant qu'écrivain, Gérard Douville, un nom masculin. Mais à cette époque, il faut rappeler que c'était souvent parce que c'était difficile pour certaines femmes de pouvoir s'émanciper en tant qu'écrivain. Et c'est la première femme à avoir le Grand Prix de l'Académie française, mais parce qu'elle avait un nom d'homme, ça a facilité les choses. Mais c'était une femme formidable, hein, Marie de Héryre, absolument formidable, précurseur de beaucoup de choses.
Curiosa, ça sort le 3 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. C'est le premier long-métrage de Lou Jeunet. Mesdemoiselles, on vous a demandé de nous indiquer un titre qui vous rappelait un souvenir. On commence par vous, Constance. Vous avez choisi une très jolie chanson, aussi jolie que courte, on l'écoute.
Je voudrais être un nain pour avoir une grosse bite. Je voudrais être un nain pour avoir une belle trique. Je voudrais être un nain pour avoir une belle bite. Mais je ne suis qu'un géant.
Les VRP, je voudrais être un nain. Ça vous rappelle quoi comme souvenir ?
Bah, c'est que quand je découvre les VRP, je me rends compte qu'on peut être fou. Mm-hmm. Et que c'est chouette parce qu'on crée. Et du coup, les gens qui écoutent la folie, bah, ils s'évadent. Et puis, on peut rire de choses débiles. Enfin, là, cette histoire de nain, c'est vraiment de l'humour de gamin, en fait.
C'est juste une crétinerie, dans le sens...
Oui, c'est une crétinerie, voilà. mais qu'est-ce que c'est drôle de rire d'une crétinerie, en fait.
Vous savez que Toulouse-Lautrec était surnommée la cafetière, dans la maison de passe où il officiait.
Pourquoi ?
Pour des raisons de profil, quand il était venu. Je laisse votre imagination vagabonder à cette époque.
Non, c'était pour rester à la belle époque. Hein.
On change d'ambiance avec vous, Noémie, vous avez choisi Kraftwerk.
Ah, c'est bien.
The Model, ça vous rappelle quoi ? Une situation, quelqu'un ?
Ça me rappelle ce tournage, le tournage de Curiosa, c'est la chanson qu'on écoutait en boucle. Et c'était un tournage magique dans le sens où la réalisatrice a vraiment réussi à nous insuffler tout l'amour qu'elle a pour ses personnages et qu'elle a voulu remettre en vie quoi aujourd'hui elle nous demandait de faire la fameuse scène du couloir en dansant et elle a mis cette musique et elle nous a plus lâché quoi.
Donc c'était une façon de vous réunir tous ensemble et pas de vous remotiver mais de repartir encore une fois dans la même direction, celle de Lou Jeunet qui voulait redonner vie à ses personnages.
Et de faire un pont avec aujourd'hui aussi et d'ailleurs la musique est signée Robotini et c'était voilà, c'est une manière de...
Il y a un peu de Debussy
parle,
aussi.
Oui.
Ah, l'oreille, l'oreille de Maître Alberto.
C'était un ami de Pierre-Louis, Debussy, grand ami de Pierre-Louis.
On ne peut rien lui cacher. Mesdemoiselles, fini la rigolade. Noémie Merlan et Constance, on va revenir sur Fauvie, mais façon France Inter. On va vérifier que vous avez la fibre de gauche. On va vérifier que vous avez bien le cœur sur la main. Ne rigolez pas, Constance. On va tout vérifier. On va vous intériser. On croyait qu'on était bien parti avec Noémie Merlan. Petite, elle grandit près de Nantes. Les Pays de Loire, c'est un bon climat pour qu'un enfant s'épanouisse. Air chargé d'embrun, il porte l'espoir du grand large avec ses promesses d'ailleurs qui, à défaut de donner du pain aux pauvres, lui donne des rêves, les rêves d'un meilleur possible à portée de voile. Mais l'air marin, c'est aussi le risque du naufrage et des mouettes qui vous chillent à la gueule. Mais cette enfance nantaise donne-t-elle pour autant à Noémie l'insigne de femme de cœur ?
Non !
Bien sûr que non ! Attirée par la capitale et effrayée par les mouettieuses, elle quitte sa ville natale direction Paris. Passionnée depuis l'enfance par le chant, la musique et la danse, elle intègre le cours Florent. Rien à voir. Cours Florent, poulailler du 7e art, pouponnière d'intermittents chers à canon pour producteurs aussi véreux que libidineux. Et ce qui devait arriver, arriva. En 2019, elle est à l'affiche de Curiosa. Curiosa, film dégueulasse où sous les robes de la belle époque se cachent des corps pétris de vices et de luxure dont les turpitudes s'épanchent à l'occasion de rendez-vous salaces, mixés de parties de jambes en l'air et de séances de photos dégoûtantes. Est-ce qu'on est mieux loti avec Constance ?
On l'a cru, un moment, pas longtemps, mais on y a cru. Enfance picarde, elle connaît le malheur géographique. La Picardie, terre de désolation intellectuelle, où l'instinct animal a depuis longtemps remplacé l'intelligence humaine. Maman travaillait dans le social, probablement pour aider des chômeurs dépressifs. Papa est à l'Office national des eaux et forêts. Pratique pour cacher des cadavres. Constance a tout pour comprendre et se mettre au service de ceux qui n'ont plus d'espoir. Mais cette aptitude est-elle pour autant l'assurance que Constance est une femme de cœur? Non, bien sûr que non. Grisée par les sunlights du showbiz, elle grimpe à Paris telle une Amazone en quête de gloire et de pognon. Elle y travaille pour le satire du pape Florent Ruquier. Elle s'acoquine avec les chevaliers du fiel au cinéma. Et on n'est plus dans le social, on est dans le grand bain capitalisto-aristotique de l'argent et de l'alcool qui coule à flanc. Cerise sur le pompon, elle participe tous les mardis sur France Inter, temple de la bien-pensance, où des animateurs gavés d'oseille vous donnent des leçons à l'émission par Jupiter. Émission parasite animée par une armée de Belges aussi imbibés que méchants. Elle s'y sent comme un poisson dans l'eau. Elle y frétille comme une sirène pour y chanter son désamour de la connerie. Vilaine ! Constance, Noémie Merlan, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des modèles de vertu sociale. Mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour les 41 ans de Cindy Sander. Noémie, Merlan, Constance, ne changez rien. C'est vrai, nous sommes en vacances. Nous sommes sur France Inter, dans Vous les femmes, jusqu'à 18h, en compagnie de Noémie Merlan, vous l'avez compris, mais également de Constance.
Ton boulot s'en balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit. Sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances. Vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser. Dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Compter les vagues se casser. Sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école. T'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence. Convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter. Maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regarder les gens passer. Sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever. Sous réserve qu'on soit réveillé. Et le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café.
En vacances, Séverin sur France Inter.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Étant sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Douce présence également, celle de Noémie Merlan à l'affiche de Curiosa, le film de Lou Jeunet qui sort mercredi prochain, et de Constance au théâtre des Deux Ânes pour son spectacle Pot pourri tous les mardis à 20h30. Petit extrait.
Tu viens d'avoir 8 ans, Grégory. Il va falloir que tu prennes conscience de certaines choses. Je ne veux pas t'effrayer, mon lapin, mais il faut que tu saches que, alors que tu joues avec innocence, une personne malveillante pourrait s'approcher de toi et t'offrir un Kinder Bueno, par exemple. Alors toi, tu serais fou de joie? Oui, parce que tu adores ça, les Kinder Bueno. Oui. Mais cette vilaine personne, au préalable, aurait introduit du somnifère dans cette friandise. Est-ce que tu sais pourquoi, Grégory? Non. Eh bien, tout simplement, pour te kidnapper, te torturer à mort et violer ton petit cadavre. Allez, va t'amuser, mon lapin.
Le petit cadavre qui s'est fait complètement abuser. C'est horrible ce que vous racontez, mais vous le dites avec tant d'innocence dans le regard. C'est ça votre force.
Ça existe. Et puis c'est la vraie vie. Et puis il y a la culpabilité qu'on nous fout dans la tronche tout le temps. Et rien que de dire à son enfant, tu n'es pas gentil, c'est de la culpabilité. Alors quand on fait la somme de toutes les choses qu'on met dans la tronche des enfants pour les culpabiliser, ça fait cette personne. Cette personne est une addition de toutes ces petites choses.
Alors, en tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est vrai que c'est toujours hyper délicat de sortir comme ça des extraits de tout un spectacle. Un spectacle, c'est 1h20 ou 1h30.
Oui, on a l'impression que c'est pas terrible.
Non, pas du tout. En vérité,
c'est hilarant.
En vérité, surtout, c'est qu'on y était avec Alberto, c'était mercredi dernier, et la salle était morte de rire. Constance, puisque vous parlez, vous avez continué à garder le micro. Là, on en parlait vite fait hors antenne, mais c'est intéressant. Vous vous autoproduisez.
Oui, je suis indépendante, depuis un an.
Alors, ça change quoi par rapport à ces gentils producteurs qui s'occupaient de vous avant ?
Ça change que j'ai moins de visibilité parce que j'ai moins d'argent pour prendre des affiches dans le métro, des colonnes Maurice, En revanche, ça fait que quand je vends un spectacle, je choisis les gens avec qui je travaille, les conditions. Si je me plantais, de ma faute. Enfin, je choisis comment on parle aux gens. Enfin, souvent, les producteurs, c'est... Bon, pas tous, hein. Moi je pense que ça s'est mal tombé ou ça me correspondait pas, mais c'est un peu des macros, quoi. Donc très paternaliste, à devoir infantiliser les artistes. Je veux dire, on n'est pas débiles, on sait prendre un taxi, on sait prendre le métro, on sait faire nos lacets. On sait pas parce qu'on est artiste qu'on est débile, quoi.
Vous disiez qu'il n'y a pas d'affichage, mais quand on a un producteur, justement, il y a tout l'affichage et ça correspond à des frais aussi.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais de toute façon, moi
je pense que c'était un chemin qui ne me correspondait pas. Je suis tellement épris de liberté que là, l'autoproduction, ça me convient hyper bien. Parce que des moments, il y a des sous, des moments, c'est des plans sardines, et puis c'est pas grave, en fait. Il y a la petite phrase, j'aime mieux manger des spaghettis avec des amis plutôt que du caviar et des connards. Il y en a une autre aussi, c'est j'aime mieux boire de la piquette avec des gens chouettes qu'un grand cru avec des trous du cul. Et vraiment, j'adore ces phrases parce qu'elles résonnent en moi follement. Et il y a des gens, et ça va pas résonner en eux. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de confort, de trucs, de l'argent, de bling bling. Moi, j'ai pas, ça va comme ça. Ça va bien.
Du coup, vous êtes heureuse?
Franchement, ça va bien.
Ça a l'air, en tout cas.
Ouais, c'est pas un truc hyper tout le temps, le bonheur. C'est un truc, des fois, ça part un peu, puis après ça revient. Mais avant, j'étais vraiment pas bien, et là, je me sens vraiment mieux.
Si vous voulez voir Constance heureuse, c'est au Théâtre des Deux Ânes, 100 boulevard de Clichy. C'est le mardi à 20h30. Noémie Merlant, on est ravis de recevoir aujourd'hui Noémie, la comédienne. Mais qu'en est-il de l'autre ?
You stole my smile, you've put me down.
Fate, la bande originale de À tous les vents du ciel. C'est vous qui chantez?
Mon Dieu, je...
Arrêtez, vous chantez hyper bien. C'est vachement bien.
C'est vachement bien.
Qu'est-ce que c'est que cette pudeur?
C'est super joli.
C'est joli. Et c'est pas quelqu'un de gentil qui vous le dit?
Non, moi, si je pense ça, je vais m'étouffer.
C'est hyper joli.
C'est la chanson du...
Oui, du film
À tous les vents du ciel. Ouais.
Mais alors, on en est où de la chanson? C'était juste un one shot? Je parle
encore
anglais.
C'était juste un one shot. Oui, c'était juste pour ce film.
Et on vous a pas proposé d'enregistrer plus?
Non.
Non?
Non.
Racontez-nous en vrai.
Ah non.
C'est sérieux?
Ah ouais, non, là.
Mais
c'était...
quand je pense à tous ceux qui chantent mal et à qui on propose de faire d'autres.
c'est vrai, c'est dingue ça.
Vas-y, est nul.
J'arriverai pas à chanter devant.
Attendez, vous avez dit que vous étiez quelqu'un de réservé, d'accord, je comprends ça. Mais là, vous chantez hyper bien. Ça vous tente pas?
Quand j'étais petite, c'est vrai, c'était mon rêve, je voulais être chanteuse.
Ah.
Mais un jour, j'ai pris cher et...
La chanteuse?
Comment?
La chair.
La chair, exactement. Et depuis, ça m'a coupé et j'arrive plus à... Là, ça va parce que c'était dans un studio, mais j'arrive pas à chanter devant des gens. Enfin, c'est très dur.
Mais si la confiance revient, peut-être que...
Alors, il faudrait faire un gros travail.
Allez voir l'amie Constance, elle va beaucoup mieux maintenant, elle a sûrement des recettes.
En fait, vraiment, la recette, c'est d'en avoir rien à foutre de rien. Et quand on fait ça...
J'entends.
Wouhou, ça
mais
va
c'est
bien.
Dur d'y arriver à ça. Ouais. C'est pas évident.
Mais sinon, on passe notre vie à être mal. Puis après, on dit, ah bah dis donc, je vais mourir, c'est trop tard.
Non mais c'est une chose de le comprendre, c'est une autre chose de se l'approprier. On va laisser Nani faire son chemin. Justement, parlant de chemin, quels sont vos projets? On a compris que la chanson, il va falloir travailler un petit peu sur le sujet, mais j'ai entendu parler de Portrait de la jeune fille en feu.
Oui.
On en est où?
C'est le prochain film de Céline Sciamma, avec Adèle Haenel. Et on a terminé en décembre le tournage, et là je crois que le film est presque terminé.
Autrement, Jumbo aussi avec Emmanuel Berco.
Oui, un film de Zoé Witok, un premier film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est objectophile.
Amie avec les objets, donc.
Amis qui ont une relation amoureuse et sexuelle avec les objets.
Ah, il y a une femme qui était amoureuse de la Tour Eiffel, j'ai vu une fois. Hein, c'est ça, c'est objectif.
J'ai regardé beaucoup, il y a un documentaire sur elle.
Elle voulait se marier avec la Tour Eiffel.
Ans ce week-end.
Voilà, et faire l'amour avec la Tour Eiffel.
Bah voilà,
donc cette jeune femme objectophile, elle amoureuse de quoi comme objet?
D'un manège, mais pas le fameux manège de...
Ah, pas l'avion qui décolle jamais, pas celui de Constance.
Non, celui qui monte en l'air et qui tourne dans tous les sens vraiment très très vite. Et voilà, elle est amoureuse de ça, qu'elle appelle Jumbo.
Alors, il y a aussi la Noémie qui est derrière la caméra avec un court-métrage à venir, c'est ça?
C'est mon premier court-métrage produit qui s'appelle Shakira.
Ça parle de
Sardou.
Pardon. Pas de souci. C'est un film, là on l'a tourné, c'est vraiment tout récent, il y a 3 semaines. C'est une famille avec qui j'ai sympathisé de Rome qui il y a 3 ans. Et petit à petit, on s'est dit qu'on allait faire un film et j'ai écrit l'histoire au fur et à mesure en fonction aussi des différentes familles que je pouvais rencontrer. Et on a tourné ce film qui est une réelle fiction avec un scénario, avec des rôles qu'ils ont appris chacun. Et voilà, et c'est l'histoire de jeunes qui sont entre l'intégration, le fait de s'en sortir malgré la misère et la rue, et bien sûr une histoire d'amour aussi.
Et qui n'a pas été tourné, il y a d'autres projets qui sont à venir?
Un film qui commence bientôt, mais c'est pour ça que je me suis coupé les cheveux, mais je ne peux pas en parler malheureusement.
D'accord, très bien, mais vous viendrez nous en parler quand ce sera un peu plus concret, quand vous aurez le droit.
Voilà.
En tout cas, pour l'instant, votre actualité, c'est curieux ça, et ça sort mercredi prochain. C'est bien cela. Mes amis, chaque semaine, Albert Algou nous brosse le portrait d'une femme quasi inconnue, qui pourtant, vous allez le voir, était exceptionnelle. Aujourd'hui, dans Il était une femme, Anne Sullivan. On vous écoute, Alberto.
Alors, une prochaine fois, je ferai le portrait de Marie de Heredia, mais comme il y a l'excellent film Curiosa, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, il était une femme, Anne Sullivan. Anne Sullivan est née en 1866 dans le Massachusetts. Sa famille irlandaise avait émigré aux États-Unis après avoir fui la grande famine de 1845. À 5 ans, Anne contracte une infection oculaire qui la rend presque aveugle. À l'âge de 8 ans, elle perd sa mère. 2 ans plus tard, son père, qui a sombré dans l'alcoolisme, c'est du Zola, mais c'est vrai, et qui, trop pauvre, se sent incapable d'élever Anne et son frère, les place dans une maison de charité. Du fait de son handicap, Anne peut à peine lire, écrire ou coudre. Heureusement, elle obtient d'être admise à l'Institut Perkins pour aveugles à Boston. Et là, surmontant ses difficultés, elle fait de rapides progrès, notamment grâce à l'alphabet manuel dont on reparlera, conçu par Laura Bridgham, la première femme américaine aveugle et sourde à recevoir une éducation et qui était devenue une des enseignantes de l'Institut. Une série d'opérations améliore la vue d'Anne et, à 20 ans, elle est diplômée de l'Institut et devient enseignante auprès de jeunes aveugles. Le directeur de l'Institut lui parle alors d'une enfant de 7 ans, devenue aveugle, sourde et muette, incapable de communiquer avec ses parents et qui présente de graves troubles du comportement. Aucun précepteur n'a réussi à entrer en contact avec cet enfant. Pourtant, Anne Sullivan relève le défi et le 3 mars 1887, elle part pour Tuscumbia en Alabama où elle rencontre Hélène Keller, personnage beaucoup plus connu. C'est le début d'une relation d'abord professorale puis amicale qui durera un demi-siècle. Les premiers contacts avec monsieur et madame Keller sont plutôt tendus. À peine arrivée, Anne se dispute avec eux à propos de la guerre de sécession et de l'esclavage. C'était des sudistes, ce qui ne la dissuade pas de s'occuper d'Hélène. D'emblée, Anne constate qu'en désespoir de cause, les parents cèdent à leur fille quand celle-ci, faute de pouvoir s'exprimer autrement, fait preuve de violence. Sans tenir compte des réticences des Keller qui la trouvent trop jeune et doute de ses aptitudes, Anne s'isole avec Hélène dans une grange à l'écart de la maison. Ainsi peut-elle laisser son élève se livrer à ses terribles colères sans pour autant lui céder. Mais elle n'en reste pas là. Pour qu'Hélène puisse formuler ses demandes, si tyrannique soit-elle, elle va lui apprendre à communiquer au moyen de l'alphabet manuel. Ainsi, s'approchant du puits, Anne fait toucher à Hélène l'eau dont un seau est rempli, puis épelle plusieurs fois de suite dans la main de la petite fille le mot eau, water. En moins de 6 mois, cette méthode se révèle très efficace. Le vocabulaire d'Hélène s'enrichit de centaines de mots. Anne, en outre, lui apprend à s'exprimer en langue des signes et à lire le braille, lui faisant ainsi découvrir la lecture. Elle l'initie aussi au calcul. Les parents d'Hélène, d'abord réticents, se laissent convaincre d'inscrire leur fille à l'école Perkins pour qu'elle y reçoive une instruction complète adaptée à son état. De retour à Boston, Anne Sullivan va accompagner et aider sa protégée dans ses études qui seront couronnées de succès. En 1904, Hélène Keller sera diplômée du Radcliffe College, un diplôme universitaire. Par la suite, elle deviendra conférencière et une écrivaine au renom international. Le dénouement, l'humanité, la persévérance, les intuitions géniales et les méthodes éducatives innovantes d'Anne Sullivan permirent tout cela. Son action a contribué à changer le regard que beaucoup de gens, peut-être pas tous, mais que beaucoup portaient sur les personnes handicapées ou vulnérables, jugées à tort, inaptes à tout apprentissage. Anne Sullivan s'est éteinte à New York en 1936. Total respect à cette femme. Je ne saurais trop vous recommander le livre « L'histoire d'Hélène Keller » de Lorena A. Hickok, on trouve ça en pocket jeunesse, et le film remarquable « Miracle en Alabama » d'Arthur Penn avec Anne Bancroft, la grande Anne Bancroft, dans le rôle d'Anne Sullivan et Patty Duke dans le rôle d'Hélène Keller. Alors parents, profs, éducateurs, regardez, faites découvrir ce film à vos enfants, à vos élèves, parce qu'il en dit beaucoup plus long sur le handicap que bien des essais et des conneries qu'on peut entendre régulièrement de la bouche de certains escrocs.
Vous aviez entendu parler de Anne Sullivan, mademoiselle?
Non.
Constance?
Non, jamais. Et je suis ravie parce que c'est vraiment une belle histoire et je trouve qu'on ne parle pas assez des gens bons.
Mm-hmm. Bah écoutez, c'est Alberto qui s'y colle. Il était une femme, portrait de femme. On peut retrouver sur le site d'Albert, Il était une femme, toutes vos histoires, mon bon Albert.
Merci.
Vous connaissiez Anne Sullivan, vous, de votre côté, Noémie? Non, pas du tout.
Hélène Keller est connue. Hein, l'histoire d'Hélène Keller, que beaucoup d'enfants connaissent, lisent en bibliothèque et tout. Mais Anne Sullivan, qui était son éducatrice, une femme extraordinaire. Une éducatrice extraordinaire.
Éducatrice extraordinaire, portée par un gentleman extraordinaire.
Vous, les femmes...
Oh, c'est trop horrible!
Sur France Inter.
Constance, des projets cinéma, vous avez tourné un peu avec les Chevaliers du Fial quand même.
Oui, j'ai tourné 3 films avec eux. Là, je vais tourner un film cet été. Mmh. Je n'ai pas encore trop le droit de dire ce que c'est.
Vous n'avez le droit de rien
dire. Vous non plus.
C'est incroyable cette histoire.
Mais voilà, je suis contente.
Ouais, vous êtes donné le mot.
On fait des petits mystères, comme ça les gens disent oh, qu'est-ce que c'est.
On tourne ensemble en fait.
Voilà. C'est une comédie, on peut savoir.
C'est... Oui, c'est une comédie. Ouais, c'est une comédie à caractère rigolote.
D'accord, un caractère
voilà.
Drôle, ouais.
Voilà. D'accord. Non, c'est vrai, ouais, c'est une petite comédie. J'ai un rôle qui n'est pas dégueulasse, voilà. C'est pas un énorme rôle, c'est pas un tout petit rôle.
Sans trop nous en dire, à côté de qui?
Mais je ne peux pas dire tout ça, vous êtes vraiment
j'essaie.
Un petit fouilleur.
Allez, ça n'empêche pas d'offrir des cadeaux, et les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto.
Alors pour vous, Constance, puisqu'un de vos personnages aime les mots, c'est « Balance ton mot » de Marie Deveau, qui est lexicographe, et l'excellent Jean-Loup Chifflet, c'est aux éditions Plon, un livre qui débusque avec humour les mots ouvertement ou traîtreusement machistes, les mots qui n'ont pas de masculin, par exemple « mal baisé », »,« nymphomane »,« virago », les mots péjoratifs ou féminins, comme « courtisan », »,« courtisane ». Et puis, pour vous, Noémie Merland, une correspondance entre deux personnages considérables, Pierre-Louis a une correspondance avec Maria Heredia, mais là, c'est la correspondance entre Louise Michel et Victor Hugo. Alors c'est un petit livre, c'est correspondance 1850-1879 au Mercure de France, le petit Mercure, ça coûte pas cher. Louise Michel, lettre à Victor Hugo, c'est absolument remarquable, magnifique.
Voilà pour la distribution de cadeaux, c'est la fin de Vous les femmes. Aujourd'hui nos invités étaient Constance qui est au Théâtre des Deux Ânes pour son spectacle Le Pot Pourri, c'est tous les mardis à 20h30, c'est jusqu'au 30 avril en tournée dans toute la France. Les dates sont sur le site de Vous les femmes. Également autour de la table, Noémie Merland, l'affiche de Curiosa, le premier long métrage de Lou Jeunet qui sort mercredi prochain. Je n'ai pas cité qui étaient vos petits camarades de jeu, je vais le faire maintenant. Il y a Nils Schneider, Benjamin Laverne, Camélia Jordana et Amira Kassar.
Ils sont excellents tous.
Excellentissime, tout le casting. Merci Albert Algou à la réalisation
c'est
de cette émission.
Merci.
Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique. L'excellentissime Maximin Grand, programmation musicale L'Animal, Thierry Dupin. Cette émission, bien entendu, podcastable autant de fois que vous voulez. La semaine prochaine, nos invités seront Anne-Marie Vin et Corinne. Au revoir, bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter, bien entendu. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain à 6h57, très précisément.